Mach's so. Le matin.
9h32, bon lundi les amis, un bon début de semaine, merci de débuter votre journée avec nous autres, c'est bien sympathique, vous êtes de plus en plus, on peut voir ça par les graphiques qu'on voit sur notre site internet et en plus vous nous écrivez de plus en plus au 418-971-101 par texto, je vous invite à le faire encore s'il se passe quoi que ce soit sur la route. Moins 3 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien, c'est une température ressentie de moins 11 actuellement. Pour aujourd'hui c'est de la neige et ce soir aussi c'est de la neige entre 2 et 4 cm annoncé. Tout dépendant où vous êtes, un minimum de moins 7 degrés, un maximum de moins 1. Et demain mardi, ce sera une alternance de soleil et nuage avec 30% de probabilité d'averse de neige en matinée avec un maximum de plus 1, donc des possibilités de pluie aussi pour ce qui est de demain. Il est de la Fédération canadienne des contribuables, c'est le directeur Québec. Salut mon ami Nicolas Gagnon!
Bon matin, ça va bien?
Ça va très bien. Explique-nous, là, si le gaz continue d'être élevé comme ça, quel impact ça peut avoir dans l'économie?
Ben, un ralentissement, c'est malheureux, mais avec on s'entend qu'on n'est peut-être pas la seule économie sur Terre où est-ce que le pétrole a une importance capitale pour le transport, pour les activités industrielles et autres. Donc, inévitablement, si le prix continue à augmenter, je veux dire, il y a des gens qui vont devoir faire des sacrifices. C'est le résultat direct. Il va y avoir des entreprises qui vont devoir ralentir leur production. Donc, clairement, ça pourrait nous emmener vers une récession. On espère que ce ne sera pas le cas, mais c'est sûr que si le prix de l'essence continue, là, je pense qu'il n'est pas loin de 2$ le litre. En tout cas, dans ma région, à Laval, c'est pas mal le cas présentement.
Québec, on a du 1,79$ encore.
Ah, vous êtes chanceux. Ben, si vous êtes... Moi, demain, vous mettez du super dans votre voiture, c'est terminé. Vous êtes déjà à 2$. Mais c'est ça, c'est malheureusement, c'est la réalité qui nous attend si jamais ça continue. Puis on s'entend que c'est tout lié à un contexte géopolitique sur lequel on a absolument zéro contrôle au Québec ou au Canada, malheureusement. C'est bien beau de dire si on utilise nos réserves de pétrole pour augmenter les stocks sur le marché puis essayer de faire baisser l'offre, malheureusement, ça sera pas suffisant quand on regarde ce qui se passe à l'international. Fait que les mécanismes qui restent présentement sur la table pour alléger le fardeau des automobilistes et des entreprises, ben c'est vraiment s'attaquer aux taxes directement sur l'essence. Puis malheureusement, à ce niveau-là, il n'y a pas ben de volonté ni de courage politique, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale pour y aller de l'avant. On sait que le Parti québécois avait déjà fait des propositions là-dessus, mais si on s'attarde plutôt à ceux qui sont au gouvernement, donc la CAQ, il y a un refus carrément d'y aller de l'avant. Puis quand on regarde l'opposition officielle, le Parti libéral du Québec, et je me souviens la semaine dernière avoir vu Charles Millard célébrer le fait qu'il n'y avait pas de baisse de taxes sur l'essence dans le dernier budget, en disant que c'est une genre de mesure qui serait populiste. Il faudrait m'expliquer en quoi c'est populiste, là, mais à la fin de la journée, c'est ça, c'est pas mal la seule chose qui peut être faite. Ça avait déjà été fait dans le passé. Moi, je me rappelle que c'est pas le premier choc pétrolier qu'on subit dans les dernières années. En 2022, on a vu une situation très similaire. Et il y avait plusieurs gouvernements à travers le Canada qui avaient baissé les taxes sur l'essence. Donc, ce serait bien de revoir ça. Dans le reste du Canada, ils ont plus de taxes carbone. Fait que ça les aide pas mal. Notre côté, on l'a encore. Puis on a encore de la marge pour réduire les taxes si jamais il y a un gouvernement qui a un minimum de volonté là-dessus. Là.
Il y a de ça quelques jours, il y avait une majorité de Québécois qui s'opposaient à la hausse salariale pour ce qui est de Mary Simons. Là, on voit qu'il y a une autre hausse à l'Assemblée nationale qui s'en vient. Puis avec la Fédération canadienne des contribuables, vous avez fait faire un sondage.
Oui, on a contacté nos amis de la firme Léger pour justement faire un sondage à la grandeur du Québec là-dessus, parce que le 1er avril, c'est vraiment la journée des poissons d'avril pour les contribuables, parce que on a des augmentations de salaire qui sont automatiques pour beaucoup de gens dans la fonction publique, qu'on aille notamment à Ottawa, c'est la réalité là, pour les députés de la Chambre des communes. Mais il y a aussi le fait qu'à l'Assemblée nationale du Québec, il y a aussi une augmentation de salaire qui s'en vient pour les députés de l'Assemblée nationale. L'indemnité de base va être revu à la hausse de 4 750 $, donc c'est une augmentation de 3,3%.
Mais attends un peu, Nick, ils se sont votés une augmentation de 30% en 2023. Là. C'était pas suffisant, ça?
Non, parce que selon eux, non. Et en plus de ça, Non seulement ils ont augmenté leur salaire à ce moment-là, mais ils ont fait un mécanisme d'indexation. C'est-à-dire qu'à chaque année, il y a une révision du salaire en fonction de l'augmentation des salaires observés dans la haute fonction publique. Donc, bref, les salaires perçus par les plus hauts dirigeants des ministères et des sociétés des sociétés d'État, pardon, au Québec. Et donc, on observe ça, on observe cette moyenne et on l'applique aux députés, pour, ne serait-ce que sur l'indemnité de base. Donc, automatiquement, sans aucun vote qui soit tenu, le 1er avril prochain, le salaire des députés va augmenter. Donc, c'est ça, c'est 4 750 $ pour un député d'arrière-ban qui a pas d'occupation comme tel. Automatiquement, ça veut dire que son salaire passe à pas loin de 146 000 $. Donc, comme tu l'as mentionné, ils ont une augmentation de 30 % en 2023. Ils ont aussi une augmentation de 7,5 % en 2025, parce qu'il n'y en a pas eu en 2024 à cause du réajustement qui avait lieu à ce moment-là. Mais là, cette année, c'est 3,3 %. Donc, au final, depuis 2023, le salaire des députés aura augmenté de 44 %.
Aïe aïe.
Ils sont passés de 101 000 $ à 146 000. Et
Jeff!
ben, leur salaire est appelé à augmenter à chaque année par la suite.
Jeff, aide-moi mentalement.
Oui.
Quand c'est les profs qui ont besoin d'augmentation de salaire, t'as un François Legault qui sort en disant « On pense à la capacité de payer des Québécois. »
Exactement.
Quand c'est les ambulanciers qui demandent une augmentation de salaire parce que leur convention est échue depuis des années, on dit... C'est la capacité de payer des
Ouais.
Québécois. Quand c'est les médecins, on a la capacité de payer des Québécois, on n'est pas sûr. Mais quand c'est eux autres, par exemple, il n'y en a pas de problème avec la capacité de payer des Québécois.
44 % depuis 2023, c'est scandaleux quand la classe moyenne est rendue dans les banques alimentaires.
Oui, absolument. Ou sinon scandaleux à cause du fait qu'on s'augmente le salaire alors qu'on a des finances publiques dans le rouge, comme on a pu le voir et le reconstater à nouveau la semaine dernière dans le budget. Donc là, on a ces augmentations de salaire qui sont distribuées encore à nouveau de manière automatique. Et il faut dire que ben, la capacité de payer des contribuables, déjà, elle n'est pas là. Mais l'acceptabilité sociale non plus, parce que le sondage
Ben
qu'on a
non.
fait révélait que 68 % des Québécois sont contre l'augmentation du salaire des députés à l'Assemblée nationale. Quand on retire les indécis de l'équation, ça monte à 79 %. C'est 4 Québécois sur 5 qui s'y opposent. Donc, clairement, il y a un message à retenir là-dedans. Ça me fait énormément penser à peu près à la même statistique qu'on voit quand on a fait le même sondage pour les députés de la Chambre des communes. Donc, vraiment, là-dessus, Québécois, Canadiens, on a le même combat. On refuse de voir nos salaires augmenter, revoir nos députés, pardon, augmenter leur salaire quand les finances sont dans le rouge puis quand les contribuables en arrachent.
Hey, Madame Fréchette, Monsieur Drainville, qu'est-ce que vous pensez de tel projet? Ah, on n'a pas l'acceptabilité sociale pour ça. Ouais, mais ce projet-là, la population le veut. Ouais, l'acceptabilité sociale. Augmentation de salaire, vous avez pas l'acceptabilité sociale de votre population? Ah, ben ça, c'est pas grave. Ça nous touche directement dans nos poches. Donc, on n'a pas besoin de l'acceptabilité sociale.
Non, exactement. Mais quoi que, tu sais, moi, je prends quand même la peine de mentionner qu'en 2023, il y a deux partis politiques qui ont quand même eu le courage de refuser l'augmentation de salaire, là, les députés du Parti québécois et de Québec solidaire. Donc, bon, si jamais ils veulent refaire le stunt, ça rend bien leur face parce que l'augmentation de salaire, c'est quand même dans une semaine. Donc, ce serait bien de les entendre s'exprimer là-dessus. Mais même chose pour les députés du Parti libéral ou de la CAQ, à savoir s'ils sont capables de faire preuve d'un minimum de solidarité parce que pour l'instant, il y a personne qui s'est engagé à refuser son augmentation de salaire. Il y a pas de parti politique qui a dit hey, peut-être qu'on devrait réviser ce mécanisme-là parce que ben c'est peut-être pas ajusté à la réalité, puis ça envoie pas le bon message à la population, puis surtout quand on sait qu'on doit faire des sacrifices de part et d'autre, il y a des gels d'embauche dans la fonction publique, on essaie de réduire les dépenses, mais on augmente son portefeuille. Donc, clairement que ça serait bien qu'il y ait une révision à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est ça. Il y a pas vraiment de leadership politique, mais ça serait bien de demander à Mme Fréchette et M. Drainville ce qu'ils en pensent de leur côté.
OK. Donc, le sondage léger qui a été commandé par la Fédération canadienne des contribuables, si vous voulez le consulter, c'est contribuable avec un S.ca. On dit que 68 % des Québécois qui s'opposent à une hausse de salaire des députés, sachez que les députés s'en foutent royalement, à 18 % des Québécois qui appuient une hausse de salaire des députés. En même temps, tu me poses la question, est-ce que les députés ont le droit à des augmentations de salaire
ben
comme
oui.
monsieur et madame tout le monde? La réponse serait probablement oui dans mon cas, mais c'est en raison du 30 %.
Ben,
moi, c'est le 30 % qui m'agace
oui,
d'augmentation de salaire.
Exactement. Puis là, quand tu le mets depuis 2023, comme Nick nous l'a démontré, c'est 44 %. Tu vois que tu as une augmentation de salaire à l'inflation à chaque année, je suis pas contre. Loin de là, mais 44 %, ça fait aucun sens.
Nick,
Oui,
parlons.
puis
Oui, vas-y.
Oui, ben juste pour finir là-dessus, ben c'est parce que justement, ça, c'est un argument qui a été ramené de l'avant en 2023. C'est parce que tout le monde disait qu'il y avait un rattrapage nécessaire pour le salaire des
Ouais.
députés parce qu'il disait qu'il n'avait pas été révisé depuis un bout. Sauf que c'est un mensonge qui a été colporté, là, puis que je sais même pas comment ça se fait que ça s'est ramassé dans les médias. Mais il en reste que le salaire des députés était bel et bien ajusté et indexé à
Chaque
chaque
année,
année.
exact.
Il a toujours été. Sauf qu'en 2023, ils ont décidé de l'augmenter tout bonnement de 30 %. Puis après ça, ils ont mis en place un mécanisme qui va l'augmenter au-delà de l'inflation. Fait que c'est d'où la problématique, mais je pense que l'ancien modèle d'indexation du salaire, c'était beaucoup plus adapté, là.
Ouais. Souviens-toi, François Legault avait dit qu'il avait mis en place un comité indépendant
Ouais.
pour évaluer ce que devrait gagner un député
Ben
à
oui.
l'Assemblée nationale. Un comité indépendant. Le boss a mis en place
Un comité
un
indépendant.
comité
Et ce
indépendant.
comité indépendant-là a soumis comme recommandation 30 %
Ouais.
d'augmentation. Ben oui, méchante
La
indépendance.
Fédération canadienne des contribuables, as-tu été invité sur ce comité-là?
Sûrement.
Non, on est
Ah,
personne non grata pour
ah,
ce genre de choses-là, malheureusement.
Colin. Tu vois, Nick, t'es encore sur leur jeu de dards à chaque fête de Noël. T'es là avec ta photo, avec la Fédération canadienne des contribuables, puis ils tirent des dards sur toi. Un jour, il va falloir que tu te mettes de leur bord, Nick.
Non, c'est correct. Je
Non.
préfère vraiment être. Je préfère faire lancer des dards dessus puis être du côté de la population des contribuables. C'est plus gratifiant, mettons.
Parlons des taxes sur l'essence. De plus en plus, là, ça commence à faire son bout de chemin de retirer une taxe sur l'essence, de cesser de taxer les taxes déjà. Est-ce que c'est une mesure qu'on dit populiste? Moi, je pense que oui, parce que c'est une mesure qui est populaire. Puis moi, quand on me dit, hey, ça, c'est populiste, ben, ça, c'est pas nécessairement péjoratif pour moi. De quelle façon vous voyez ça, vous autres?
Ben, c'est ça, c'est malheureux parce qu'il y a du monde. T'sais, des fois, le populisme, c'est bien, des fois, c'est mal. Ça dépend de dans quelle direction on pédale, puis surtout, c'est quoi le dosage. Mais dans le cas, par exemple, des baisses de taxes sur l'essence, ça va au-delà de l'enjeu de gauche-droite. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que on l'a vu au cours des dernières années à quel point ça arrivait que des gouvernements pouvaient intervenir sur les taxes sur l'essence sans que ce soit nécessairement des gouvernements populistes de droite. Même que présentement, vous avez l'Union européenne qui demande aux pays membres de regarder, de réviser à la baisse des taxes sur l'essence, justement pour aider à la fois les automobilistes et les entreprises européennes à faire face à l'explosion des coûts, parce qu'eux aussi sont directement impactés par ce qui se passe en Iran. Mais il y a aussi le fait qu'au Canada, on a quand même un historique assez intéressant à ce niveau-là. Comme je disais tantôt par rapport à 2022, quand il y a eu la même crise par rapport à l'invasion de l'Ukraine, puis ce que ça a produit là, au niveau des coûts de l'énergie à l'international, il y a quand même des gouvernements au Canada, en fait, qui ont révisé à la baisse les taxes sur l'essence. Vous avez entre autres Terre-Neuve et Labrador, vous avez qui est dirigé par un gouvernement libéral. Vous avez bon l'Ontario, c'est un gouvernement progressiste conservateur, mais vous avez aussi le Manitoba qui est un parti néo-démocrate qui
Ah.
dirige. Et vous avez finalement l'Alberta, ça c'est plutôt des conservateurs. Mais plus récemment, je tiens à dire qu'en 2025, le 1er avril, quand la taxe carbone pour les consommateurs au niveau fédéral a été abolie, ben c'est pas un gouvernement conservateur populiste qui l'a abolie, c'est Mark Carney, là. Je veux dire, je pense que Monsieur le banquier de la Banque centrale du Canada représente littéralement l'antithèse de ce qu'est le populisme. Ben donc, on a vu vraiment à plusieurs égards des gouvernements, surtout plus de la gauche, s'attaquer aux taxes sur l'essence. Quand je vois des gens dire, ah, ben, ça serait populiste de faire ça, puis ça c'est comme, donc, populiste veut dire, on comprend qu'avec les dernières années, le mot populisme a été galvaudé. C'est automatiquement associé à du Donald Trump, à du Marine Le Pen, à du, je sais pas, Nigel Farage en Angleterre, ou Pierre Poilievre au Canada. C'est constamment associé à ce genre de discours-là, alors qu'en réalité, ben, dans l'application, c'est surtout des gouvernements progressistes qui ont retiré ces taxes-là. Donc, éventuellement, ça serait bien qu'il y ait cette réflexion-là un peu plus poussée au Québec, parce que présentement, comme je disais tantôt, le fameux texte de Francis Veil dans la presse, où est-ce qu'on dit que le prochain gouvernement n'aura pas le choix d'augmenter les impôts pour faire le ménage dans les finances publiques à cause de ce que va laisser derrière François Legault, ça évacue constamment le raisonnement que ben le gouvernement d'un il perçoit déjà trop d'argent puis il dépense mal notre argent. Puis, mais dans le cas par exemple des taxes sur l'essence, c'est un exemple flagrant où est-ce que le gouvernement va chercher beaucoup trop d'argent, puis au final, pourquoi? Ben pour donner des résultats qui sont assez misérables quand c'est le temps de parler de l'entretien des routes ou des infrastructures. Et on manque pas d'argent pour prendre soin des infrastructures. On l'a vu dans le PQI d'ailleurs, la semaine dernière, là, quand même 167 milliards sur 10 ans, clairement qu'on a l'argent pour prendre soin des routes. 70% de ce budget-là, c'est pour de la maintenance. Puis une bonne partie de cet argent-là ne vient pas non plus des taxes sur l'essence, mais vient aussi des autres portefeuilles. Mais à la fin de la journée, j'espère qu'on aura une discussion un peu plus mature au Québec d'ici les prochaines élections sur les taxes sur l'essence. Il y a au moins le Parti conservateur du Québec et le Parti québécois qui s'intéressent à ça pour deux manières différentes. L'un s'intéresse à la taxe carbone, l'autre s'intéresse à la taxe provinciale ou à la TVQ. Mais ce qui serait optimal, c'est que les deux solutions soient appliquées, qu'on se débarrasse de la taxe carbone du Québec une fois pour toutes, pour qu'on vienne au même niveau que le reste du Canada, et qu'on s'attaque à la taxe provinciale sur les carburants, qui prend quand même 20 cents par litre, et qu'on puisse donner un répit, ne serait-ce que temporaire, là, pour aider le monde, tant aussi longtemps que la crise aura lieu au Moyen-Orient.
Nicolas Gagnon, t'es à Ottawa demain?
Oui, malheureusement, c'est pas ma ville préférée. Je veux dire, je reviens de Québec, qui est une méchante belle ville, puis là, je m'en vais à Ottawa. C'est vraiment un downgrade solide. Mais je m'en vais en comité parlementaire à la Chambre des communes pour représenter la Fédération canadienne des contribuables avec mon collègue Franco Terrazano, qui est notre directeur fédéral. Vous avez compris, moi, je suis directeur à Québec, donc ça nous arrive de travailler en tandem sur certains dossiers. Et là, on s'en va essentiellement prendre parole pour les contribuables sur les dossiers des taxes carbone, justement. Là, je viens de parler de la taxe carbone du Québec, puis j'ai mentionné préalablement là, que la taxe carbone pour les consommateurs au fédéral a été abolie, mais ce que bien des gens ne savent pas, c'est qu'on a encore une, voire deux taxes carbone au Canada qui s'amènent. On a une taxe carbone qui est rentrée en vigueur en 2023 via le règlement sur les carburants propres. Ça vient du gouvernement fédéral et le Québec se retrouve à la payer inévitablement. Et ça représente jusqu'à 7 cents de plus par litre d'essence là, en termes de coûts cachés dans l'énergie. Et on sait que d'ici 2030, au Québec, juste cette petite taxe carbone cachée va représenter environ 436 $ de plus en termes de facture pour les familles en moyenne au Québec. Mais il y a une autre taxe qui s'en vient. C'est une taxe carbone industrielle qui va fonctionner à peu près de la même manière que la taxe carbone du Québec. Mais là, cette fois-ci, ça a été appliqué par le gouvernement fédéral. Donc, vous avez compris, finalement, le même gouvernement qui a aboli la taxe carbone pour les consommateurs l'an dernier veut nous en passer une par la porte en arrière via les entreprises. Donc, on refile un coup aux entreprises, puis ces entreprises-là vont vous refiler le coup, comme c'est le cas pour la taxe carbone du Québec, justement. Donc, nous, vous aurez compris, on est totalement contre ça. Donc, on s'en va faire un plaidoyer pour défendre les contribuables à ce niveau-là, et on va espérer faire entendre votre message. Bien sûr, si vous voulez nous encourager, c'est très simple, juste vous abonner à notre page ou à nous encourager sur les réseaux sociaux ou signer nos pétitions et tout ça. Mais dans l'ensemble, nous, c'est vraiment, c'est notre devoir d'y aller pour s'assurer à ce que ce projet-là ne voit pas le jour et que ben, on reste un territoire carbon tax free au Canada et qu'on n'en a pas une seule qui s'applique. C'est un combat de longue haleine, mais on espère le remporter une fois pour toutes.
Contribuable avec un S.ca. Merci, Nick.
C'est toujours un plaisir. À bientôt.
On se revoit lundi prochain. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est avec nous chaque lundi, qui se bat pour le payeur de taxes, on va se le dire. Il travaille extrêmement fort.
Et on s'en fait-tu passer des petites vites hein, par nos gouvernements? 44% d'augmentation depuis 2023.
Ah ouais. Puis là, c'est là que tu sais, quand ils parlent d'acceptabilité sociale, ouais. Ça, c'est quand ça fait leur affaire.
Oui, exactement.
Sinon, ils t'en parlent pas. Après ça, et capacité de payer de l'État. Oui. Quand les méchants professeurs, les pas gentils là, qui travaillent avec les enfants, qui sont tout le temps gentils, eux autres, là, ils ont pas de misère, eux autres, avec leur travail. Fait que, tu sais, l'augmentation tout autour, c'est pas grave. Là. Les profs, ils en demandent beaucoup d'argent. La capacité de payer de l'État, c'est pas facile.
Nos méchantes infirmières.
Eux autres, Assemblée nationale, pouf, 30%.
Méchante infirmière, pas de convention collective pendant une année et demie, deux ans, fait que garde le même salaire, mais ils n'auront pas me dire de rattraper l'inflation des dernières années, n'aient pas de capacité de payer.
Ah non, c'est gênant. Un peu plus tôt ce matin, on vous apprenait qu'à l'aéroport de LaGuardia à New York, l'aéroport était fermé jusqu'à nouvel ordre. J'imagine qu'il reste des pistes d'ouvertes pour recevoir certains vols, mais pour l'instant, là, tout le monde est en état d'alerte dans ce secteur. Là, c'est un avion d'Air Canada qui provenait de Montréal, qui a atterri à LaGuardia, qui est rentré dans un camion de pompiers sur la piste d'atterrissage. Ça a fait deux morts. Je te posais la question, tu sais, c'était-tu sur la piste? C'était-tu sur le tarmac? Bien, ce que je sais maintenant, c'est que c'était vraiment sur la piste.
Ça veut dire en atterrissant, parce qu'on parlait d'une vitesse de 160 km/h.
Ouais.
Alors, j'imagine qu'on tend à 160 km/h, on a quand même commencé à décélérer.
Dès que les roues touchent le sol, les freins sont appliqués.
Parfait. Fait qu'on a commencé à décélérer, mais
t'as une contre-force aussi qui se fait, là, mais ça, au niveau des ailes.
Oui, mais là, bang, un camion de pompiers.
Bang, il y avait un camion de pompiers. C'est clair et net qu'il y a eu des problèmes de communication, OK?
C'est clair.
C'est super bien fait. À plus petite échelle, moi, j'ai vu régulièrement ce qui se faisait à l'aéroport de Québec, avec Québec Sol, mm-hmm. Québec Air. Tout le monde travaille ensemble de concert. Puis les communications sont quand même... sont compréhensibles. Pour quelqu'un qui avait de nouvelles oreilles comme moi là, en aviation, j'étais capable de comprendre toutes les communications. Si tu veux, tu peux écouter les communications qui se font à John F. Kennedy. Bonne chance. j'ai mis la main sur l'événement,
ouais.
Sur les pompiers qui demandent la permission d'aller sur la piste. C'est un segment d'une 13. Vous allez voir à quel point... Pour nous autres, là, des fois, ça peut être incompréhensible. Pour eux autres, ils sont habitués de travailler de même puis ils réussissent à se comprendre. Mais vous allez voir à quel point ça se peut des fois qu'il y a des erreurs, même s'il ne faut pas qu'il y en ait.
Southwest 3988.
LaGuardia Tower, crest 7.
Frontier 4195, amend your climb out. LaGuardia 7, departure, Coney climb off of runway 13.
Tower Delta 2603, ILS 4.
2603, standby. Who's the vehicle needed to cross the runway?
Truck 1 and Company, LaGuardia Tower.
Truck 1 and Company.
Truck 1 and Company, LaGuardia Tower, requesting to cross 4 at Delta.
Truck 1 and Company, cross 4 at Delta.
Truck 1 and Company, crossing 4 at Delta.
Frontier 4195, just stop there, please. Stop, 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 Truck 1, stop, stop, stop. Stop, Truck 1, stop. Stop, Truck 1, stop. Delta 2603, go around, runway heading 2000. Jet 646. Jet 646, I see you collide with a vehicle there, just hold position. I know you can't move. The vehicle's there responding to you now.
Is the runway closed?
Delta 2603, go around, runway heading 2000.
Runway heading 2000, go around, Delta 2603.
LaGuardia Tower.
Truck through 2, runway 4 is closed, correct?
Yes, go on to runway 4 now. Proceed on runway 4, you have access.
Donc voilà, tu vois l'état de panique ouais. Par la suite. Pour ce qui est de Québec, t'as Québec Sol, t'as Québec Air. Fait que quand tu pars sur le tarmac avec ton avion, tu dis Québec Sol, ici Kilo Oscar Sierra, je suis à telle place, je veux me déplacer à telle place, puis t'attends qu'il te répond. Puis des fois, ça peut prendre un certain temps, puis là, il dit Kilo Oscar Sierra, c'est beau, tu peux commencer mm-hmm. à aller, puis tu vas t'arrêter exactement là. Tu fais exactement ce qu'il te dit. Là, c'est des pompiers. D'après moi, là, à tous les jours, sont en communication avec la Guardia Sol, là, s'ils l'appellent comme ça. Puis, ils n'ont pas réussi à avoir la permission, mais ils ont été pareils. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a perçu? On ne sait pas encore. Mais c'est épouvantable.
Ben oui, c'est épouvantable ce qui est arrivé. Deux morts, on le rappelle.
Contrôleurs aériens, là, contrairement à ce qu'on peut penser, on a l'impression qu'ils sont tous sur le café là, puis qu'ils écoutent AC/DC Thunderstruck là, pour être sûr et certain d'être mindés, là. Dans Tour à Québec, là, t'as l'impression qu'ils sont tous à tisane. Ils sont vraiment tranquilles.
Ils sont calmes.
Sont très, très alertes.
Je pense
que
t'as pas le choix
radar.
Pour prendre les bonnes décisions. Il faut que tu sois un tempérament ouais. Très stable.
Mais à JFK, pour avoir vu des documentaires sur l'aéroport JFK, là, dans Tour, c'est tous des gars et des filles qui sont extrêmement calmes, mais sont tellement concentrés qu'il faut qu'ils se fassent relayer. Je sais pas si c'était aux 15 minutes ouais. Ou aux 25 minutes, je m'en rappelle pas.
Mais ça doit.
Mais tu sais, à un moment donné, ça va être l'intelligence artificielle qui va gérer tout ça. Mais encore à ce jour, c'est des humains, puis il peut y avoir des problématiques. Donc,
malheureusement.
L'avion d'Air Canada qui a tué les deux pilotes, là, le pilote et son copilote. Beaucoup de blessés aussi dans le camion de pompiers. Il y avait deux pompiers qui ont été blessés. Tu me dis 160 km/h, l'impact. Je le sais pas. C'était-tu un peu moins? Je le sais pas.
Ouais, mais je te dis ce qui était rapporté dans les médias là, jusqu'à présent.
Quand tu regardes l'avion, là, est un peu est comme Jackie. C'est oui. Comme si elle avait levé dans les airs, puis le camion est en dessous. C'est assez particulier. Les gens ont dû avoir toute une frousse. Heureusement, il y a juste deux morts. Tu vas me dire deux morts de trop, tu as absolument raison, mais ça aurait pu être catastrophique.
Ah, bien sûr.
9h56, tu nous parles de quoi ce midi?
Dans On en jase, on va voir Jacques Doucet, l'ancien descripteur de baseball des Expos, avec Roger Brulotte, travaille également à TVA Sport. Donc, c'est à midi 35. On va avoir également une propriétaire d'une station-service et d'un dépanneur à Breckéville, Joannie Leroy-Audy. Elle se fait voler de l'essence ces temps-ci, mais elle a retrouvé un voleur par hasard à l'épicerie. Elle s'est stationnée à côté. Là, le gars, il a promis de venir payer. Donc, on va jaser de ça avec elle. Et Luc Laliberté, qui est un chroniqueur en politique américaine, va être avec nous aux alentours de 13h pour parler justement des derniers détails concernant la guerre en Iran.
9h56, à ne pas manquer, 16h30 sur nos ondes. Denis Gravel avec Véro et Audrey qui reçoivent le maire de Québec qui sera là pour répondre aux questions des trois. Puis si jamais vous avez des questions pour eux autres, ben c'est le 418-971-1021. Puis d'après moi, ils vont les relayer au maire aussi en même temps. Je souhaite de passer une agréable journée. Un bon lundi, un bon début de semaine. Puis on se reparle à 18h. Tantôt. Salut.
Bye.
Salut. Dans un instant.